villa, Inch'Allah, Carla retourne, Carla Radio Vélo en direct, cette veille de Ronde de l'Isard. Bienvenue Julien.
Ça chauffe Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Avec ton maillot rose du Giro,
Giro on s'ennuie un peu en ce moment.
En ce 18 mai 2016, heureusement qu'il y a Diego Ulissi pour faire le show. On a des revenants dans l'équipe de Radio Vélo aujourd'hui. Déjà on a Philippe qui fait son retour dans la team C'est à Radio. Bienvenue Philippe.
Eh oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et je reviens dans Radio Vélo parce que justement je l'ai écouté, c'est là que j'ai eu les fou, grâce à la fille qui travaille ici d'ailleurs. Voilà.
Ah, on a une fille qui travaille.
Moi je veux savoir combien tu gagnes ici parce que je vais pas savoir pas du
retard. Gracieusement payé. Mélanie, bienvenue.
Bonsoir.
On salue également Mika qui est avec nous. Mika.
Voilà. Salut à tous et à toutes.
Voilà, une émission exceptionnelle avec aussi notre ami Aubin, notre tarné préféré. C'est ça,
t'es toujours tarné.
T'as pas déménagé, Aubin. Dispositif Radio Vélo sur la Ronde de l'Isard avec CETA Radio dès demain avec l'arrivée des deux étapes de montagne à suivre à partir de 15h en direct, en exclusivité sur CETA Radio. On aura Aubin sur la moto, sur la voiture. On va voir comment on fait ça.
Dans la voiture.
On aura également des directeurs sportifs au téléphone. On aura peut-être Julien sur sa moto si tout va bien.
Si
bref,
je suis bien payé, ouais, sinon
les infos seront au rendez-vous. Bien évidemment, dispositif exceptionnel pour les deux étapes de montagne. Et puis, tout au long des quatre jours, vous pourrez suivre un petit peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux, le Twitter, le Facebook et également des petites vidéos. Philippe, la Ronde de l'Isard, on va la présenter tout à l'heure avec Guy Sens, le président organisateur. On aura également
c'est le show.
Et c'est le show qui continue avec cette Ronde de l'Isard dont les stars de demain sont toujours au rendez-vous. On a eu la chance d'y aller plusieurs fois ensemble, Philippe.
Oui, et puis quelle histoire que cette Ronde de l'Isard, parce qu'il y a vraiment de grands coureurs qui sont sortis. Quand on gagne la Ronde de l'Isard, effectivement, on passe au pro très rapidement, et puis après, on fait sûrement une belle carrière. Mais c'est une belle course, et puis surtout des étapes qui démarrent dès le départ. On réfléchit pas, les coureurs attaquent à tout va. C'est vraiment très très sympa comme course à suivre.
On en parlait tout à l'heure justement au téléphone avec Jean Belgaric. On disait que sur le podium des 10 dernières années, quasiment 90% des coureurs sont passés professionnels. Certains ont un sacré palmarès, d'autres ont arrêté comme Eason qui avait brillé cette Ronde de l'Isard, qui a mis un terme à sa carrière. Mais c'est vrai que chaque fois, chaque année, comme disait Philippe, c'est une course qui est très vivante, où il y a des attaques incessantes, c'est jamais fini tant que la ligne n'est pas arrivée, et voilà, c'est vrai qu'on prend plaisir à la suivre, déjà parce que c'est chez nous, il y a des, comme les coureurs disent, ils ont l'opportunité de monter des cols pyrénéens, l'école mythique du Tour de France. Des fois des conditions météo qui sont pas forcément faciles, on le voit chaque année, encore l'an dernier. Voilà, donc on va vraiment se régaler cette année aussi avec un superbe plateau, l'équipe de France qui est là présente, on est à la présentation l'autre jour.
Et oui.
Et des équipes qui vont pas faire des passants pour rien, l'équipe de Wiggins, la Fondation Contador, il y a du sacré niveau, on va y voir du spectacle.
Il y avait la présentation d'ailleurs jeudi dernier à la maison du rugby à Toulouse, à la Roseraie, c'est ça le quartier, Julien?
C'est la maison du rugby, tout à fait, ouais. Donc on a été bien reçus, donc on a pu voir le déroulé, les 10 étapes, les équipes présentes, les différents maillots partenaires. Voilà, ça annonce un petit peu la couleur de ces 4 jours de course. Le temps devrait être de la partie, donc on va se régaler.
Aubin, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, sur les premières fois où tu as eu la chance de venir à la Ronde de l'Isard?
Ouais, l'année dernière, c'est comme tu le disais, Philippe, c'est vrai que les coureurs, ils attaquent de partout. Bon, après, l'année dernière, ils attendaient un peu sur les deux premières étapes, l'ascension finale, pour attaquer, mais ça attaquait à chaque fois de plus. On l'a vu, il attaquait Petit à chaque étape après la première étape. Et quelle dernière étape aussi, avec toutes les péripéties dans le port de l'Hers, le col de l'Accor aussi. Donc c'est vrai qu'il y a du spectacle, il y a du monde au bord de la route aussi. Beau succès populaire à chaque village traversé, surtout aux villes arrivées et départ.
Ouais.
Je pense que là ça va être encore le cas à l'Orpsentaray de même pour le grand départ. Donc ouais, il y a du monde qui vient voir les jeunes, les futurs champions du Tour. Donc c'est vrai que ça fait plaisir quand on suit la course et quand on aime le vélo.
Philippe.
Oui, une belle course, mais surtout une belle ambiance, une ambiance de vélo avec venez voir, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas l'occasion d'aller sur le Tour de France, parce que vous vous êtes pris, mais là vous verrez quand même l'ambiance vélo avec les voitures, avec les dépanneurs, avec tout ça, je veux dire voilà, avec les soigneurs qui sont là tout autour, ça fait quand même très professionnel cette course. Donc voilà, même ouais, pour l'ambiance quoi. Même si c'est plus petit que le Tour de France bien évidemment, mais déjà vous avez une bonne image, un bon aperçu du cyclisme comme ça, du cyclisme sérieux, du cyclisme professionnel.
Philippe, tiens, juste avant d'attaquer un petit débat de Giro quand même, parce qu'on va parler aussi du professionnel, du Tour de Californie aussi avec notre ami Benjamin qu'on va voir dans quelques instants. Philippe, tu as participé, je crois, dans la région à une course assez sympathique dont Mélanie te demandait des infos en plus.
Voilà, elle me demandait des infos, et bien je vais lui donner avec plaisir, parce qu'en fait ça a été une super journée. Donc en fait le but était de faire l'étape du Tour de France, l'île de Jourdain-Bayol. Alors pas pour tous les coureurs, parce qu'effectivement il y en avait qui partaient de l'île Jourdain qui allaient faire les 160 km, il y en a qui partaient de Trie-sur-Baïse, ça a été mon cas, donc on faisait 84 km, et puis il y en a qui partaient d'un peu plus près, d'une quarantaine de kilomètres à peu près, mais surtout il y avait quand même la montée sur Bayol en finale, mais surtout le col d'Aspin à monter pour tout le monde. Donc ça c'est quand même un col mythique du Tour de France, c'est faire ça quand on aime le vélo, c'est sympa. Donc il y avait à peu près 75 coureurs qui sont partis, donc un tandem. Moi j'étais sur le tandem et ça s'est super bien déroulé. Bon, le temps, on a eu la pluie effectivement, pluie même au moment presque de la grêle jusqu'au pied du col, donc on était bien trempés, on n'a pas pu lever les caouets, hein. Et par contre après dans le col, heureusement tout le monde a eu du beau temps. Et là, ben c'est sympa de monter un col. Je veux dire, tout le monde s'est fait plaisir. Et puis il y avait aucun participant qui a râlé, qui a dit que c'était pas bien. Tout le monde était super. Et puis après un repas à la fin qui était sympa. Voilà. Et puis un organisateur qui fait bien les choses. Par exemple, moi j'ai un de mes collègues qui participait pas à moi et qui a perdu ses lunettes sur la course. Et ben l'organisateur est allé les récupérer un jour après dans le bus et il va les lui rendre demain. Donc vous voyez une organisation du début à la fin qui était vraiment digne du Grand Tour de France, quoi. Vraiment, là, l'île Jourdain a montré une capacité à gérer le cyclisme comme il faut. Et beaucoup, beaucoup de plaisir pour tout le monde. Et bien pour moi en particulier, et mon pilote, effectivement, parce que monter un col en tandem, c'est super. Donc, même si j'étais longtemps devant la voiture balai, on a quand même du plaisir. Voilà.
Parce qu'en tandem, tu fais toujours deuxième. Donc,
Ouais, toujours. Toujours deuxième, comme Poulidor. Voilà. Et puis, un moment sympa, effectivement, j'étais dans le col, et puis bon, j'avais quand même maillot couleur de radio vélo, et puis il y a trois furieux qui m'ont doublé, j'ai pas eu le temps de les voir, hein. Amis, ils m'ont crié: ah là, la radio qu'il faut, c'est radio vélo. Ça encourage quand même quand on monte le col, ça.
Je sais pas qui c'est. Parti, Nico, ou quoi? Reviens, Nico, là, reviens.
Non, je reviens. Juste le temps. Mais Philippe, c'est vrai que c'est super toujours d'avoir un retour sur expérience inside. Nous avons Benjamin au téléphone. Benjamin, tu nous entends?
Oui, je vous entends bien.
Bon, bienvenue avec nous. Ça va très bien. Est-ce que tu as entendu un petit peu Philippe qui racontait son expérience?
Alors, j'ai entendu à partir du moment où les lunettes étaient tombées par terre et que quelqu'un l'a ramassé. Mais
ouais.
Non, je viens juste d'arriver chez moi. Donc.
Ok. Philippe, rappelle-lui la course que tu faisais à Benjamin.
Ah ben, c'était l'étape donc, qui aura lieu le 8 juillet pour le Tour de France, le vrai Tour de France. Là, c'était l'île Jourdain-Payol, qu'on pouvait faire effectivement ou en entier, 160 km pour ceux qui l'ont fait, ou effectivement en partant de Trie-sur-Baïse, comme pour moi, en étant véhiculé par bus. Et à noter d'ailleurs que la sécurité, pas ça, c'est très important, la sécurité en course, on l'a vu cette année malheureusement avec une année difficile pour le cyclisme, mais des motards partout effectivement pour nous indiquer le chemin et pour être là quand il y avait un problème. Moi, il m'est même arrivé un moment où j'ai tombé ma barre effectivement de céréales par terre et la voiture qui était derrière est montée à ma hauteur et m'a tendu une pâte de fruits. Ça, c'est pas les organisateurs quand même.
Mélanie, tu voulais une question pour Philippe? Non, c'est bon. Il t'a fermé
là.
Les yeux, tu t'y es vu, c'est bon avec tout ça. Philippe, on parlera du livre tout à l'heure. Oui, tu voulais rajouter?
Ouais, juste un petit mot, effectivement, pour parler de l'île Jourdain. C'est qu'avant le tour, dans la semaine précédente, le 11 juin par là, ils vont faire toute une semaine de vélo. Donc, je crois que le samedi 11 juin, je vais pas dire des bêtises dans ces eaux-là, il y aura une rétro. Donc, une balade de 30 km avec des vieux vélos. Ça, c'est quand même assez sympa. Voilà.
Tout à fait intéressant et l'île Jourdain.
On en reparlera
bien évidemment. Parlons un petit peu de ce Giro, le Tour d'Italie. On passe du local à l'international, mais quand même, on voulait se faire un petit débat et Benjamin nous met la pression, il nous a rejoint.
Mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Le Giro d'Italie, Benjamin le suit toujours assidûment avec nos amis partenaires du forum de Vélo Club du Net. Benjamin, tu nous disais que les débats allaient bon train, surtout après que pas mal de cadors soient allés au tapis et abandonnés. C'était le cas hier de Michael Landa, l'un des deux trois gros favoris de ce Giro. Il a été recruté par Sky pour ça, on imagine qu'il le paye un peu pour ça aussi, donc c'était quand même une sensation que l'abandon de Michael Landa, qui était l'année dernière chez Astana et qui avait mis le feu au Giro, et là il n'a pas pu suivre hier. Et aujourd'hui Tom Dumoulin qui a aussi abandonné. La semaine dernière on vous parlait des abandons rapides d'Alexandre Géniez et Jean-Christophe Perrault, les meilleures chances françaises. Décidément, Benjamin, ce Giro, qui va le finir ?
Qui va le finir, oui. En effet, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler, ces abandons, notamment celui de Michael Landa, puisque Michael Landa qui avait fait un super contre-la-montre, et après le jour de repos qui se retrouve largué loin en général. À 6 minutes du peloton, à plus de 3 minutes de Sheng Ji, le brave chinois du Team Giant, qui est réputé pour ses talents de non-grimpeur. Ça faisait un peu penser en pire à ce qui est arrivé à TJ Van Garderen au dernier Tour de France.
Ouais, tant que tu cites pas des anciens calmés, c'est bon, TJ Van Garderen, ok.
Mais c'est vrai qu'avec Michael Landa, que l'an dernier on n'avait jamais vu auparavant un pareil niveau en montagne, il va chez Sky, en début de saison il est totalement invisible. Bon, enfin, il a une réputation. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec lui sur certains côtés néfastes, on va dire, du cyclisme sur le forum. Du coup, ça a beaucoup fait parler cet abandon. Certains ont dit, bon, mais il a mal dosé ou quoi que ce soit. Bon, enfin,
oui,
vous voyez,
ne nous sort pas des suspicions comme ça, quand même, on ne peut pas. Regarde, Rosine Bachelot a parlé de Nadal et elle a ramassé après.
Je ne dis pas que c'est ce que je dis.
Bon, oui, donc Michael Landa, c'est quand même une sensation, mais jamais, surtout quand on investit autant sur un coureur. Hein, je me souviens l'an dernier de certains investissements peu fructueux dans d'autres équipes. Je ne vais pas en citer pour pas encore allumer des polémiques, mais bien sûr, Michael Landa, c'est quand même une sensation. C'était l'un des favoris. Ce soir, c'est Jungles, le luxembourgeois, digne successeur d'Andy Schleck. On espère pour lui un mieux. Et leader, donc, avec l'équipe Ethic Quickstep Lidl. Devant Amador, l'un des larrons de l'équipe Movistar. Valverde, troisième du général. Ça nous rappelle un Quintana Valverde, même si Amador n'est pas encore Quintana. Krujic est là. Nibali, Brambilla, l'ancien leader. On retrouve également encore dans ce classement l'ancien vainqueur du Giro Esredal, mais bon, on se dit que ça va pas jouer entre 10 000 personnes.
Benjamin Maika aussi.
Rafał Majka, on ignore les limites sur cette épreuve, vu qu'il fait le Giro et le Tour à fond en général. Benjamin,
je pense pour ma part que ça se jouera entre le 3e du général et le 7e du général.
Carrément, tu mets pas Nibali dans le coup, du coup. Tu mets un match Valverde-Majka.
Non. Entre le 3e et le 6e, donc. Valverde, c'est 3e. Le 4e, c'est Chris Weick.
Ouais.
5e, Nibali. 6e, Majka. Moi, ça sera les 4.
6e, Brambilla. 7e, Majka, ouais, d'après ce que j'ai vu, moi. Mais bon.
Et du coup, c'est pour ça que... Je parle du général, hein, pas du classement d'étape.
D'accord, oui.
Et après, bon, je pense que Zakarin va s'écrouler, comme j'avais dit, parce que ça fait quelques semaines, voire même quelques mois qu'il est sur la brèche. J'attends de voir ce que peut faire Juan Esteban Chavez, qui s'était révélé sur les grands tours sur la dernière Vuelta. Et après, bon, Rigoberto Urán a l'air pas mal, et peut-être Ryder Heisdal, parce que Ryder Heisdal, on sait que chaque Giro, en troisième semaine, il est super fort. Donc, j'ai l'impression qu'il monte à puissance. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Ben, est-ce que c'est pas un petit peu ce Giro est pas un petit peu fort? On attend toujours que ces étapes décisives arrivent, et puis en fait, C'est vrai que moi je trouve plus intéressant peut-être le Tour de Californie en ce moment, regardez peut-être que le Giro, parce que
pas de montagne assez tôt, Benjamin.
Voilà, alors je vous entends très mal, ça grésille, mais vous m'entendez bien, vous?
Oui, ça va. T'entends parfaitement.
D'accord. Oui, ben en fait, j'ai discuté aujourd'hui avec Nicolas. Ce que je me rends compte, c'est que ces dernières années, le Tour de France a un peu changé sa manière de faire en mettant une première étape de montagne assez dure qui permet aux cadors de s'exprimer. Alors, ça peut donner comme la Pierre Saint-Martin du dernier Tour de France, où très vite on a vu qui pouvait faire quoi, mais au moins, finalement, de décanter la course et de montrer à tout le monde, après une semaine, où c'est qu'ils en sont. Ça permet également aux grimpeurs de ne pas être épuisés par une semaine de plat, comme on pouvait voir sur certains anciens Tours de France, où on avait 10 jours de plat et où les grimpeurs se faisaient exploser ensuite par les grimpeurs rouleurs. Ce qui est un peu comme le Giro 2012, c'est qu'en voulant tout mettre en troisième semaine, on a quelques étapes avec des ascensions, mais des ascensions qui, si elles sont montées bon train, sans de terribles attaques, peuvent permettre à 10, 15, voire 20 coureurs de finir ensemble. Et ça donne donc des coureurs qui, dans les roues, se disent « Écoute, j'arrive à bien suivre, donc s'il y a une ou deux défaillances, chute ou quoi, je peux faire au top 10, si ce n'est mieux. » Et pour les leaders, ils ne savent pas encore s'ils sont au-dessus ou en dessous de leurs adversaires, ils doivent garder des forces. La troisième semaine est terrible. Et en même temps, le seul qui a attaqué, c'était vendredi ou samedi, je ne sais plus, Nibali, qui s'est fait contrer sèchement. Donc forcément, ils vont attendre les grosses ascensions, les grosses étapes de montagne. Le problème, c'est qu'on attend, on attend, on attend. Et très vite, les étapes de montagne vont arriver. Il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura peut-être qui seront raccourcis à cause de la neige. Ouais, donc on attend. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est une belle course, mais c'est pas ce qu'on attend, on va dire. C'est pas Paris, c'est le Giro. Donc, de la moyenne montagne, c'est bien, mais ce qu'on attend également, c'est des grands affrontements en haute montagne.
Bon, en tout cas, Ulissi fait bien sauter la banque. Il est bien de retour, le coureur de Lamprey. Il met le feu. Autre sujet pour le Giro, Benjamin, c'est, on parlera rapidement quand même après du Tour de Californie. L'autre sujet, c'est encore une fois, tu me disais, la tactique de cette équipe Movistar, comme on en parle souvent sur le Tour de France. On râle souvent. Enfin, moi, le premier, je dis souvent que Valverde est le premier problème pour Quintana. Finalement, là, on se retrouve avec un Amador devant Valverde, Amador qui est quand même très régulier sur le Giro. Et tu es allé chercher un peu plus loin, je crois, Benjamin, tu m'as parlé de ce manager là, le gérant espagnol Eusebio Unzué, qui est l'ancien mentor de Reynolds, de Banesto, d'Il Balear, de Caisse d'Épargne et maintenant de Movistar depuis 2011. Tu penses qu'il faut peut-être aller chercher plus loin les problématiques tactiques de cette équipe?
Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en penserez, mais m'est avis...
Unzué, c'est quand même Miguel Indurain, Pedro Delgado, ouais, et plus proche de nous, Oscar Pereiro, qui a aussi gagné le Tour.
Eusebio Unzué, à l'époque de Miguel Indurain, il tapait tout le monde à 6 ou 7 minutes après qu'on la montre, donc ça permettait de gérer, et c'est ce mot que je vais souligner, c'est gérer. En fait, Eusebio Unzué, tout d'abord, il faut savoir qu'en Espagne, la culture du classement par équipe est très importante. Et c'est un classement qu'affectionne de gagner, de remporter la Movistar sur les grands tours. Et il faut dire qu'ils ont les armes pour le faire. Par exemple, ce Giro, on voit aujourd'hui au classement général Amador qui est deuxième, Valverde qui est troisième. Et si on cherche le prochain, c'est Visconti qui est 18e, à 5 minutes, mais pas encore trop loin. Et en fait, en mai, ou même en 2011, Europcar, enfin, on peut en trouver plein des équipes qui ont mis le feu avec leurs moyens. Sauf que la Movistar, le souci qu'ils ont, c'est qu'ils ont vraiment une tactique. On va pas tout risquer. On va rouler pour assurer au moins le podium, plus le classement par équipe, si possible des victoires d'étape. On va attaquer pas trop loin de l'arrivée pour être sûr que si on s'est contré, on prend pas tôt. Et Quintana est malheureusement un pur produit sur le dernier Tour de France. On a beaucoup parlé de Valverde, mais en revoyant les étapes, Valverde, il sort quand même pour Quintana dès le Glandon. Valverde qui est quand même un coureur qui affectionne le type d'effort court sur 3-4 km, voire même 2 km. Il ressort également dans la Croix de Fer, mais c'est déjà trop tard. Et alors que dans le Glandon, Quintana aurait dû y aller. Mais alors la question, c'est qui? Est-ce que c'est Quintana qui n'y a pas osé? Peut-être, c'est possible, mais est-ce que c'est pas également la Movistar qui avait peur de tout perdre? Et tour après tour, je me rends compte que leur leader, là, cette fois-ci pour le Giro, c'est Valverde, n'attaque pas. Et il pourrait déjà avoir deux ou trois étapes Valverde s'il tente un peu plus. Il va en faire partir Amador avant ou un autre. Et Valverde part qu'à la fin, rattrape ou est quasiment proche de rattraper les échappés, mais ne revient jamais. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais. Je pense que c'est un problème de cette équipe pour arriver à la victoire.
C'est vrai que l'Espagne est très attachée à ses classements par équipe, hein, que ce soit dès le plus jeune âge, où ils attachent une grosse importance à la récompense, justement, à l'attribution de ces prix par équipe. Bon, là, on est à la 10e étape. Je vois que la 2e équipe, c'est Etix Quickstep, à peine à 50 secondes. Bon, c'est pas des écarts encore sur 121 heures, c'est pas des écarts phénoménaux, pardon. Il y a la troisième équipe, c'est Astana à 1,54, après c'est plus loin, à 6,37. Le classement par équipe, pour l'instant, il n'est pas forcément joué avec l'étape qui va arriver derrière. Donc, va pas trop falloir qu'il se loupe pour essayer d'aller le conquérir. Mais je te rejoins un petit peu concernant ça. Après, c'est l'état d'esprit des coureurs aussi derrière qui est important. Hein.
Et je fais la comparaison avec le dernier Tour de France, avec parce que pour moi il y en a énormément à dire sur le Tour de France 2015. C'est un des plus riches à analyser de ces 20 dernières années. C'est la Sky qu'on peut critiquer sur l'hégémonie tout ça, mais la Sky tout misé sur un coureur, Christopher Froome, et a demandé à tous ses leaders hormis Geraint Thomas de chaque fois se relever. Si on regarde les classements du Tour de France 2015 en première semaine, Poel doit être à 25 minutes, Porte à 30. Il y avait des écarts énormes parce que les gars, une étape sur deux, se relevaient. Chaque fois, ils faisaient un turnover entre les coureurs pour protéger Froome et l'accompagner, hormis Thomas qui a explosé ensuite dans les Alpes. Et là, on voit la différence entre une équipe qui joue la victoire individuelle et qui met toute l'équipe autour d'un coureur, et une équipe qui joue sur plusieurs fronts et qui, malheureusement, sur le plus grand, ne gagne pas, parce que pour moi, Quintana qui perd le Tour de France, c'est pas. Et voilà, quoi. Il aurait dû partir dans le Vendôme, par exemple.
Si t'étais manager d'une équipe, tu ferais comment, toi, ta stratégie?
Alors, je veux dire, si j'étais pour la Movistar, je mettrais un leader et un second leader. Mais, par exemple, sur le Tour de France 2015, c'est clair que. Sur l'étape du Glandon, je sais que Quintana est un grimpeur long qui affectionne les courses dures, et je sais que Froome est au contraire un coureur qui donne son plein potentiel sur une ascension sèche et sur les 6-7 derniers kilomètres, sur un certain type d'effort. Ce que je fais, moi, c'est je tente de tout faire péter dans le Glandon, parce que je sais que même si je fatigue mes coureurs, eh bien, tout simplement, Froome sera bien moins efficace sur la dernière ascension. Et quand on voit que Quintana va chercher Froome sur les 6 derniers kilomètres de la tout suivre en lui mettant 30 secondes sur le terrain de Froome, sur les 6 derniers kilomètres, sur l'effort où Froome est vraiment le meilleur, il y avait tellement mieux à faire. Je pense que si Quintana part dans le Glandon, si on oublie chute ou quoi que ce soit, avec en plus Nibali, je pense que Froome le sort, il a plus de 2 minutes.
C'est en tout cas très très intéressant, Benjamin, qui devrait écrire des livres, hein, tellement il a de choses à dire.
C'est vrai, c'est assez passionnant. Voilà, ça se discute après la stratégie de course. Après, c'est vrai que moi, pour avoir managé quelques équipes, quand tu es leader sur une course, après, ben, tu vas mettre toute l'équipe à l'aide, pour le leader, quoi, forcément, qui passe pas d'effort. Forcément, peut-être en faisant des turnovers comme ils les ont fait, c'est pour moi la bonne stratégie. Voilà, après, si tu veux viser le classement par équipe, ben, tu peux pas adopter la même stratégie que si tu veux protéger ton leader, l'aider et qu'il arrive au top, quoi.
Oui.
Je vais juste ajouter une chose sur la Movistar 2015, c'est que Quintana, il avait déjà fait podium du Tour de France en 2013, meilleur jeune, meilleur grimpeur. En fait, tout ce qu'ils ont eu, hormis le podium de Valverde, il l'avait déjà eu. Il l'avait déjà eu, Movistar, donc du coup, c'est une super performance, qu'on soit d'accord. Mais tout ça, il l'avait déjà obtenu. Et ils n'ont pas tenté d'avoir ce qu'ils n'avaient pas eu.
En tout cas, eh bien, ça promet de belles batailles. Le Tour de Californie rapide, on est en retard là pour la pub. Julien, tu nous laisses le temps de parler, pas du Tour de Californie. Si, le Tour de Californie avec Julian Alaphilippe qui bat tous les Ricains, Stettina Bennett, Buchwalter, tous là derrière, Talansky aussi sur cette course. Il y a beaucoup de enfin, c'est pas le plateau du siècle non plus, mais il y a quand même des noms intéressants. Benjamin, c'est une course qui lui convient bien. Hein. Il a gagné l'étape Rennes encore cette année, c'est ça?
Ouais, alors il s'est baladé. Hein. J'ai regardé ce matin justement de partir au boulot le replay.
Tu l'aurais mis sur le Giro, toi, là, Philippe? Tu l'aurais mis sur le Giro? Difficile
non,
à dire.
Non, parce qu'il avait fait les Ardennes. L'an dernier, je l'aurais mis sur la Vuelta.
Ouais.
Cette année, je pense qu'on peut même le mettre sur le Tour de France, parce que c'est le lundi ou le mardi où il y a une étape qui arrive en côte, et je pense qu'il peut aller chercher le maillot jaune. Sur ses capacités de puncher, parce que contrairement à certains punchers, il récupère bien des étapes, donc dès la deuxième ou troisième, il pourra avoir un avantage. Et aller prendre le maillot jaune, ce serait quand même formidable, super coup de pub pour Etix, parce que c'est un Français qui aurait le maillot jaune, ça fait quelques temps. Et ouais, mais aujourd'hui, alors le plateau est pas forcément le plus exceptionnel, hein. Les coureurs qui étaient n'ont pas fait forcément de gros résultats sur la saison, mais il s'est baladé, mais c'est un junior au milieu de minime, hein, sur son attaque au dernier kilomètre, c'est monstrueux ce qu'il a fait.
Bon, c'est quand même important de faire ça. Ben, tu veux rajouter Aubin
Non, mais cocorico, mais après, c'est vrai qu'en Californie, est-ce que les routes, ça y fait quelque chose? Parce qu'aux États-Unis, c'est pas les mêmes. On a l'impression qu'ils roulent sur des autoroutes, quoi. Donc, on n'a pas l'impression que les montées sont aussi.
Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il va pas faire la route du Sud, non? Les routes sont pas bien dans le Tarn.
Je crois qu'Etix n'est pas sur la route du Sud.
Ah, mais c'est vrai.
C'est vrai que pour le Tour de France, on aimerait bien le voir.
Ouais.
Peut-être que le public français ne le connaît pas, du coup, parce que
profil
le
grand intéressant, public ouais.
Le connaît pas, il court pas souvent en France, donc je pense qu'il découvrirait un bon coureur et qui pourrait briller cet été.
Et du coup, ben, on fait une petite coupure et on se retrouve avec Aubin, avec Mélanie, avec Philippe, avec Julien et toute l'équipe, et avec Guy Sens tout à l'heure, le président organisateur, qui amène peut-être dans ses bagages Raymond Poulidor dans quelques instants dans Radio Vélo. Ne bougez pas, on revient.
C'est ta radio.
Pop. Rock. Sport. C'est l'émission pour les amateurs de vélo. À retrouver en podcast sur cetaradio.fr et le mercredi en direct à 19h. Radio Vélo, l'émission 100% cyclisme uniquement sur cette radio.
L'amour est une descente à vélo, un Tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne là.
De retour dans Radio Vélo, présentation de la Ronde de l'Isard dans quelques instants. On va appeler quelques personnes qui se trouvent sur place, notamment
on va prendre la température.
La température à notre ami de manager de l'équipe Aynem, Max Massat. On aura également.
Est-ce qu'il a le diplôme pour être manager, Max?
Je sais pas, peut-être que comme pour Harry Bagé, il paye des amendes à l'époque, hein, le TEF paye des amendes. Bref, bravo, tu sais que c'est maintenu, bien sûr, on n'a pas dit, mais bon, il va y avoir du sport, c'est fini, ça. Sur cette radio. Tiens, vu qu'on a retrouvé Philippe, je suis sûr qu'il nous a amené des petits bouquins à commenter, et juste après on se fait la présentation de la Ronde de l'Isard.
Ben oui, des bouquins, il y en a effectivement. Alors on va commencer par un bouquin qui parle d'une marque, une marque un peu mythique, qui était surtout connue pour les motos, mais qui à partir des années 30 a produit des vélos. C'est la bicyclette Motobécane de mon père. Alors effectivement, ben on voit des vélos, hein, des vieux vélos par exemple. Moi j'ai vu ici par exemple le premier vélo que j'ai eu en 1965 ou 6, donc je l'ai retrouvé dans ce bouquin. Donc on voit tous les vélos motobécanes, le vélo également de Louis Ocagna dans le Tour de France en 1973, tour qu'il avait gagné. Donc voilà, motobécane qui avait également une équipe, on se souvient de l'équipe La Redoute Motobécane dans les années 80, je crois qu'il y avait Alain Bondu qui courait chez eux. Donc un bouquin sympa sur les bicyclettes motobécanes également pour les filles, les mini-vélos. À l'époque, il y avait beaucoup d'époques de mini-vélos, donc qui se pliaient pour les mettre dans les coffres des voitures, hein, des vélos motobécanes. Donc voilà, un livre sympa, en espérant qu'il fasse toute la série, hein, les bicyclettes motobécanes, les bicyclettes Astiglion, les bicyclettes Peugeot, pourquoi pas. Autre bouquin et autre chose, bouquin tout vert. Hein. Tout vert, effectivement, il parle passion maillot vert. Il est écrit par Denis Soula, qui est un homme de radio. Et dans ce bouquin, très intéressant, parce que de A à Z, on parle des sprinteurs, mais pas que. Par exemple, à un moment, il y a une photo inédite. C'est rare les photos inédites que sur le Tour de France. Une photo inédite, on voit par exemple un groupe d'ecclésiastiques attendant les coureurs sur la route du Tour. C'est en 1930. Donc voilà, on sortait du séminaire pour aller voir passer les coureurs. Autre chose, alors là c'est une revue, ça c'est assez sympa parce que les nouvelles revues de cyclisme, il n'y en a pas beaucoup, pour la presse c'est dur actuellement, et ça s'appelle Cyclo Vintage. Alors Cyclo Vintage c'est assez intéressant, bon, hein, c'est pas pour les spécialistes, c'est un peu grand public, mais on voit par exemple le vélo de Bobet pendant le Tour 1954, le vélo Stella, on parle par exemple de la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne c'est pas que le foot, c'était aussi une ville de vélo, où on fabriquait beaucoup de vélos, et en particulier la ville du Grand Rouge-Rivière. On voit également une saga sur la caravane du Tour de France, en particulier les deux chevaux cochonous. Tu les connais bien, toi, je crois, Nico, les deux chevaux cochonous.
Bah, oui, oui.
Voilà. Donc il y a un article sur la caravane du Tour de France. Il y a un article sur la maison natale d'un grand coureur, d'un très très grand coureur qui avait gagné le Tour de France deux fois. J'ai oublié son nom, mais je vais le retrouver. Fausto Coppi, bien sûr. Ah, oublier Fausto Coppi, c'est quand même une grosse faute. La maison natale de Fausto Coppi. Également beaucoup de choses intéressantes dans ce bouquin, qui est des livres, vous voyez, des photos, de la vague rétro effectivement, et des vieux vélos. Par exemple, vous voyez, Bobet Tour 54, avec une photo couleur du Tour 54, c'est pas mal. Donc voilà, une revue à qui on souhaite longue vie, parce que c'est le numéro 1, espérons qu'elle continuera, une revue qui paraît tous les deux mois. Voilà.
Ben merci Philippe pour ces précieuses informations, comme d'habitude. Tu avais d'autres anecdotes à nous conter par rapport à tes dernières sorties ?
Non, pas spécialement, mais on parlera peut-être avec Raymond Poulidor sur la tout à l'heure du passé. J'ai quelques questions à lui poser.
Et nous allons donc passer un coup de fil à notre ami Max. Peut-être quelques échos de la région, Julien et Mélanie. Le temps de retrouver le directeur, le manager de l'équipe Paynem. Et puis on aura Guy Sens ensuite, le président organisateur de la Ronde de l'Isard. Pas beaucoup d'actu, ça va. On s'achemine vers la Ronde de l'Isard, j'imagine.
Ouais, voilà. Nous, la grosse info du week-end, ça a été le report du championnat sur piste qui était censé être à Tarbes.
Qui était reporté au lundi, finalement
voilà,
ça a été annulé aussi.
Au lundi, ça a été annulé parce qu'en fait il y a une course à Bagnères et des coureurs de Bagnères devaient faire le championnat à Tarbes. Donc voilà, ça a été reporté pour l'instant. Donc ils essaient de voir s'ils ne peuvent pas faire le championnat le 4 juin, parce qu'il y a une manche du trophée ce jour-là, ou peut-être la fois d'après. Donc voilà, l'info va pas tarder à sortir et je vous la donnerai. Ensuite, donc week-end dernier, donc nos minimes cadettes et juniors étaient à Izernore pour la Coupe de France. Belle performance de Alice Coutinho qui finit 8e. Ensuite, Tanios Clara, elle finit 34e. Donc là, je suis chez les minimes cadettes. 52e, Guiro Elodie. 55e, Elsa Gielin qui revient après sa chute.
Sa chute.
66e, Bialad Manon. Et 71e, Tanios Julie. Chez les juniors, Marie Gielin termine 40e et Valentine Fortin 79e.
Marie Gielin qui est 3e de la Coupe de France junior.
Ouais.
C'est une sacrée performance.
C'est ça. Donc voilà. Belle Coupe de France avec plus de 100 engagés à chaque fois sur les deux épreuves. Donc le cyclisme féminin monte en puissance, on va dire. Parce que là, sur les plusieurs manches de couple là, qu'il y a eu, à chaque fois, il y avait plus de 100 filles engagées. Donc ça montre que les filles se mettent au vélo et aiment faire les compétitions, enfin, de plus en plus. Voilà pour les petites infos.
Julien, Nicolas, tu voulais rajouter ?
Jean Belgric nous envoie quelques infos sur son site passioncyclisme-31.com avec les principaux, les régionaux au niveau des engagés pour la Ronde de l'Isard.
Ouais.
Ce que je voulais voir. L'équipe colombienne qu'on en reparlera, qui est déjà sur place, déjà, qui a reconnu tous les cols au moins 10-15 fois. on peut penser qu'ils vont les faire les yeux fermés.
Ouais.
Un petit mot là pour nous signaler la dernière saison pour Yannick Eysen, qui avait justement en 2010 donc remporté la Beverba classique, la Ronde de l'Isard ainsi qu'une étape de Tour de l'Avenir. Voilà, il y avait diverses courses au niveau régional, donc si on a le temps, on y reviendra.
Allez, direction la Ronde de l'Isard, 20 minutes spéciale Ronde de l'Isard d'un Radio Vélo, et avant d'avoir Guy Sans, c'est peut-être Raymond Poulidor avec nous, nous avons Max Massat, le manager de l'équipe Paynem, qui est avec nous. Max, est-ce que tu nous entends?
Oui, impeccable. Salut à tout le monde.
Merci d'être avec nous depuis l'Ariège, c'est ça? C'est du côté de Saint-Girons aujourd'hui?
Je suis reparti de Saint-Girons et je file à Muret faire les dernières courses.
D'accord.
Tout ce qui est la nourriture, tout ça, l'eau, parce qu'ils vont être dans un gîte. Donc, du coup,
il y a pas d'eau et de nourriture en Ariège. Qu'est-ce que tu nous dis, Max? Non, mais.
Voilà. J'ai fait ça ce matin, puis j'ai décalé. Donc, bon. On court un peu sur toutes les routes. Il y a des voitures qui circulent de partout.
Bon. Salut, Max. Vous êtes logé, vous, indépendamment des autres équipes?
Ouais, comme y a le Japon, c'est pareil, dans leur maison haute rive. Banage, je sais pas trop, mais voilà, nous, c'est de notre côté, quoi. Vu qu'on est du coin, puis je pense que c'est mieux parce que ceux qui sont logés vers Saint-Girons, Sex et tout, c'est vrai qu'ils vont être proches des arrivées, mais le matin pour aller au départ, ça fait la route.
Bon, tu étais tout à l'heure à la réunion des directeurs sportifs. Quelles sont déjà à chaud comme ça les dernières infos? Est-ce qu'il y a eu des changements, des modifs, des nouveautés qu'on ne saurait pas encore peut-être?
Ouais, ben la liste elle vient de sortir sur Direct Vélo, là, la liste officielle pour demain. Il y a l'Occitane qu'on a un coureur en moins. Il y a une autre équipe aussi qui a un coureur en moins qui partiront à 5. Le Japon part à 5 aussi. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'équipes qui partent finalement à 5 au lieu de partir à 6. Bah, comme on expliquait en discutant, c'est que le 6e doit être sûrement limite et ça sert à rien de l'emmener faire qu'une étape, quoi. Quand on part sur 4 étapes, si on sait que le coureur va en faire qu'une, autant partir à 5 que partir à 6.
Quoi. Ouais, surtout la ronde de l'Isard, quoi. C'est pas une course de plat.
Bon, c'est ce que tu t'es dit, du coup. C'est un coureur, Vivien Bord, Nicolas Châtelet, Arnaud Glaise, Clément Jolibert, Achille Métro pour l'équipe Paynim, c'est ça?
Ouais, c'est ça, parce qu'Alexandrino n'a pas eu trop le temps de rouler et surtout de s'affûter parce qu'il a plutôt préparé la piste. Et là, c'est pas une épreuve pour la piste, quoi. C'est complètement l'inverse, donc on va pas l'envoyer au casse-pipe à 18 ans, c'est pas la peine, quoi. Autant qu'il se concentre sur ce qu'il sait de bien faire.
Alors, quelles sont les attentes? On imagine le plaisir qu'il y a eu. Tu l'as exprimé à la présentation jeudi dernier. Plaisir déjà d'être sélectionné pour cette trône de l'Isard. On imagine pour toi qui fait encore du vélo, mais qui a eu l'occasion par le passé d'avoir envie peut-être de faire la trône de l'Isard. Là, donc, c'est ton équipe, Max, qui est engagée.
Ah ben ouais, moi c'est vrai que bon, j'ai démarré tard, donc c'était un peu tard pour aller faire la ronde de l'Isard.
Ouais.
C'était sur les deux dernières années espoir, et puis de toute façon j'étais pas très affûté pour faire l'Isard. Mais c'est vrai que du coup ça me permet de la faire autrement. Et donc c'est pas une revanche, mais c'est un beau cadeau. Et c'est vrai que je pense qu'heureusement qu'on y est quand même, parce qu'il fallait, pour la petite histoire, on a vu un article de Dépêche qui racontait un peu le conte de fées. C'est vrai qu'il y a tous les éléments qui se mettent en même temps, et je pense que c'était la bonne année, avec une ronde d'Isard qui repart au sommet. Si je me trompe pas, il y a une vingtaine d'équipes, j'ai pas compté, mais je sais qu'on est un paquet, comparé à l'an dernier. Quand on voit dans la réunion d'histoire sportive, quand on voit la Sky, la Grande-Bretagne, l'équipe de France, tout le patatrac, et l'arbitre les arbitres ici, tout ça, le directeur de course, c'est autre chose, quoi. Enfin, pour nous, c'est bien, parce qu'au moins, Paynim est bien prononcé, de ce côté-là, vu que des fois, il est un peu anglais. Mais non, c'est vrai qu'on passe dans une autre catégorie.
Il ouais. Bon, y a 23 équipes, sans 130 coureurs au départ. Les années précédentes, il y avait une centaine de coureurs au départ. Il y a un peu plus de coureurs au départ. Même si des équipes sont à 5, le profil de la course, c'est peut-être... c'est pas désavantageux.
Non, du tout, là, c'est pas, enfin, à moins qu'il y ait du vent, comme l'an dernier, qu'il y ait un coup de bordure. Mais, ça dépendra de la météo. Mais après, sinon, c'est très bien que, voilà, une arrive au sommet. Et puis, si dans les 6, t'as que 3 grimpeurs, tu sais déjà que t'en as 3 au moins au pied du col. Donc, là, nous, l'avantage, c'est que, à part Arnaud Glaise, qui va être limite dans l'école, et Achille, qui est pas un pur grimpeur, mais s'il est en forme, il passera. Je pense que, voilà, je pense que mes coureurs seront pas les premiers à être pris dans le pare-brise, comme on dit dans le jargon. Bon. On prend les coureurs. C'est pas trop mal.
Trois équipes régionales, Midi-Pyrénées engagées, c'est
alors,
ça?
Alors, trois équipes régionales, et sachant qu'il y a des coureurs régionaux dans notre équipe.
Tu vas nous dire, t'es la partant devant toi. Ouais. Donc,
le plan qui a été mis dernière minute pour Vendée U, il est dans les engagés.
Ouais.
Voilà, donc lui, il sera. Après, de tête, je suis habitué, j'ai la liste sous les yeux.
Après, il y a Julien Milat qui est au Bouches-du-Rhône.
Oui, je l'avais pas vu.
Ouais, au Bouches-du-Rhône, qui est là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu après? Bon, ça, c'est Simon Aurélien Costeplane de Vendée U.
Il y a un autre Aurélien, c'est Aurélien Parépène, qui est de nouveau là à Chambéry. Lui sera à suivre.
Lui aussi. Sera à suivre. Il nous suit d'ailleurs, mais sera à suivre.
Ouais.
Il y a Lucien Capot.
Par contre, je pensais voir Bouchereau, mais du coup.
Non. Ouais, mais il s'est pas remis, je pense, à sa blessure. Là, il a été. Ouais, mais il a pas pu. Donc on a quelques régionaux.
Il y a une belle équipe de France aussi. Hein.
Oui, une belle équipe de France aussi. Hein.
Lucien Capot dans l'Océan Top 16 aussi. Oui. Ça fait du beau monde. Et donc les trois équipes régionales, pour les citer, le Team Paynim, le GSC Blagnac Vélosport 31, l'Occitane Cyclisme Formation. On essaiera de passer des petits coups de fil demain dans le direct. Aubin et Julien seront là pour.
Je vais te couper, mais ce qui est sympa aussi, c'est au moment du tirage des voitures, parce que ça, c'est le grand moment que tout le monde attend. Les chefs des sportifs.
C'est un vrai tirage au sort ou c'est comme à la FIFA, c'est truqué? Non, c'est un vrai tirage au sort.
J'ai envie de dire, c'est un vrai tirage au sort. Sauf que j'ai été un peu surpris, je me demande si c'est pas comme la FIFA, quoi.
Oh là là, la mauvaise fois, les Max.
Ils sont devant.
Ouais.
Et après, en fait, nous, c'est marrant, ça fait ben, voiture 14, c'est nous, c'est PNM, 15 Blagnac, 16 Japon et 17 Occitane.
Bon, donc, on se suit, quoi. C'est comme ça. Il faudra conduire comme il faut. C'est Romain Spett, ton directeur sportif, Max?
Comment?
Ça sera Romain Smet, du coup, dans la voiture de Paynim, hein, c'est
alors,
ça?
Alors, demain, ça sera moi, de vendredi à dimanche, ça sera Romain. Ouais.
D'accord.
Je prends juste pour demain parce qu'il ne pouvait pas finalement se libérer.
Ouais.
Mais après, oui, puis. Oh, mais d'un côté, c'est pas si mal. On va voir comment ça, on arrive à s'entendre dans les clubs du Sud, vu qu'on se suit au temps CD, quoi.
Bon, très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, une petite anecdote avant qu'on te remercie, qu'on te laisse vaquer à tes préparations, tes occupations? Tu avais une question, non? Max, tu voulais rajouter quelque chose? Non? C'est l'excitation, c'est l'excitation, ouais.
On est dans le feu de l'action et on se rend compte, bah, je pense que demain matin, même les coureurs vont se dire, bon, ben là, on y est, maintenant, faut y aller, quoi. Donc, non, mais on verra, moi, j'y crois, je pense que peut-être qu'on a la possibilité de faire un petit truc, on verra. Bon. On verra comment ça va se passer.
Affaire à suivre, bien évidemment, dans Radio Vélo, les deux arrivées à montagne à partir de 15h en direct sur cette radio. Max, on vous souhaite une bonne ronde de l'Isard, une bonne première avec le Team Paynim. On se tient bien évidemment informé, on suivra tout ça de près.
Ouais, ben moi aussi. Bon courage à tous pendant 4 jours et puis j'espère qu'on va se régaler.
Merci Max, à bientôt à Radio Vélo. Salut.
Ciao.
C'était Max Massat du Team Paynim, le manager de cette équipe qui participe pour la première fois à la Ronde de l'Isard. Ronde de l'Isard qu'on a suivi ces dernières années au Bain et tu as fait des petites recherches, notamment je crois sur ceux qui étaient là justement l'an dernier sur la Ronde de l'Isard, c'est ça?
Ouais, sur ceux qui nous ont livré un duel incroyable tout au long des 4 jours. Donc on se souvient que c'est Petit qui gagne l'Italien Team Mirovia le premier jour, ouais, à Coulier-Neige, donc même arrivé que demain, et donc deuxième derrière lui de plus qu'il a chassé pendant 4 jours, et donc ils sont montés chez les pros cette année. Alors Petit reste en Italie chez l'Ampre Mérida, et de plus qui était chez Lotto Soudal, il est passé chez Etix. Et alors c'est deux parcours totalement différents qui se sont croisés sur le Tour du Pays Basque cette année. Petit 45e de plus qui finit 25e. Donc voilà, il a eu sa petite vengeance de l'Isard, on va dire, de plus. Et de plus qu'il y a eu un programme plus de classique avec Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne. Il y a aussi les 3 jours de la Flandre Occidentale. D'accord. Aussi, je crois, pour lui. Donc le Tour de Catalogne aussi, alors que voilà, Petit s'est plus cantonné autour de Turquie et autour du Var, même si on le retrouve actuellement sur les routes du Giro. Donc voilà, c'est vrai que je pense que pour Guy Sens, qu'on aura tout à l'heure, de voir les deux coureurs qu'il avait l'année dernière sur Isard briller que ce soit sur les classiques ou en tout cas sur les grands tours, ça doit lui faire plaisir. On n'oublie pas Jérémy Maison aussi qui a fait quelques courses World Tour aussi avec la FDJ. Donc c'est vrai que je pense que ça doit faire plaisir. Et Tige Benoît aussi en 2014, troisième en 2014, qui est une de nous impressionner.
Eh oui, l'épouvantail Tiz Benoud qui avait beaucoup travaillé pour Louis Vervec, qui avait remporté. C'est vrai que si on regarde les 10 derniers vainqueurs, tous ont eu l'occasion de briller chez les pros. Seul Juan Ernesto Chamorro est un petit peu sorti.
Ouais, j'ai voulu regarder ses stats, mais 2015, il y a quelques courses à l'étranger. 2016.
Ça a été plus compliqué. En tout cas, des beaux noms figurent bien évidemment avec notre ami Alexandre Genies qui avait remporté l'épreuve en 2009. L'année d'avant, c'était Blel Kadri qui avait fait second. Philippe, la Ronde de l'Isard qui se réinternationalise. Hein. On sait que toute équipe organisatrice y œuvre beaucoup et notamment notre ami Pierre Carré qui s'investit dans cette épreuve. Philippe, c'est important cette internationalisation aussi. Hein.
Oui, bien sûr, effectivement, parce que le cyclisme à haut niveau est devenu international. Donc, à ce niveau-là aussi, il faut qu'il le soit. Il faut être ouvert vers l'extérieur, surtout avec des moyens de communication comme qu'on a maintenant, effectivement, pour regarder la Ronde de l'Isard dans le monde entier avec tous les systèmes de communication. Donc, c'est bien, effectivement, que le cyclisme change et qu'il ne soit pas plus que régional, effectivement, ou national. Donc, c'est bien, effectivement. Puis, c'est des équipes qui viennent de l'étranger, qui font un peu d'exotisme. C'est bien.
Bon, on va essayer de contacter bien évidemment le président organisateur qui a quelques petits contretemps, étant donné qu'il est très occupé, vous le savez, hein, cette veille de départ de la Ronde de l'Isard. Mélanie aussi est prête, hein, tu vas faire les premières étapes à fond, non, t'es pas trop pour la montagne, toi, c'est ça, Mélanie, tu préfères le sprint?
Ouais, plutôt. Bon.
Non, la Ronde de l'Isard, c'est vrai que du point de vue régional, c'est l'un des grands rendez-vous de l'année. Il y a la Route du Sud au mois de juin, la Ronde du Isard au mois de mai.
J'ai envie de dire que c'est la petite Route du Sud. Enfin, en tout cas, c'est comme le Tour de l'Avenir avec le Tour de France, quoi. C'est la Route du Sud Espoir.
C'est surtout l'une des seules courses pour les moins de 25 ans, pour les jeunes à ce niveau-là, à part le Tour de l'Avenir. Il n'y a pas d'autres références avec des cols en plus. C'est ça qui est très
intéressant. Il y a la semaine Coppi Bartali, je crois, en Italie. Enfin, on l'a vu que ou le Tour du Val d'Aoste plutôt, où il s'était retrouvé l'année dernière, Petit aussi et de plus. Mais ouais, c'est vrai que cette Isard en France, ça fait c'est une date importante du calendrier, je pense, pour les coureurs.
Bah, c'est vrai qu'il y a des beaux cols, enfin les Pyrénées. Enfin, c'est vrai que pour les jeunes coureurs, enfin jeunes, les espoirs, ils sont rarement tous. Enfin, il y a rarement tous les meilleurs internationaux qui se retrouvent sur une course. Là, il y a trois formations espagnoles, deux formations anglaises, une
pas des moindres, hein.
Voilà, le Team Wiggins
et la Fondation Contador. Ouais. Justement, c'est vrai que on les connaît pas trop sur le circuit.
Oui.
Donc on va voir ce qu'ils donnent. Aussi, il y a les équipiers des deux de l'année dernière, les deux premiers aussi, peut-être mettre une petite pièce sur eux. L'équipe de France aussi, c'est pas Nicolas. Tu te livrer au jeu des pronostics?
Non, je vais pas me livrer au jeu des pronostics. C'est vrai qu'il y a des garçons qui sont plus spécialistes que moi pour donner les pronostics, hein, notamment les suiveurs de la Ronde de l'Isard. Peut-être faire le point un petit peu sur les étapes, hein, vu que le président organisateur Guissin est un petit peu occupé ce soir. On essaiera quand même de faire un petit peu.
On va essayer d'avoir tout à l'heure. Je rebondis un petit peu sur. On a quand même deux arrivées au sommet. Il n'y a pas beaucoup de courses par étape qu'on a la chance d'avoir dans les arrivées au sommet. L'étape de samedi, Trie-sur-Baïse, Boulogne-sur-Gers, sera une étape qui sera très dangereuse. Et l'étape de dimanche, sans parler des deux cols.
Oui, Julien.
C'est la chute du micro.
C'est la chute du micro. Merci Nicolas de me saboter mon matériel.
Non, c'est
Et voilà, c'est deux arrivées au sommet. Je vois que Guy sait nous joindre. On va essayer de l'appeler de suite. Il va nous en parler un peu
Allez,
plus.
Allez, tu vas faire le job. Alors, les quatre étapes sont bien évidemment. Tu peux lui répondre, Julien. L'Ors Santaraï Goulienège, ça sera demain. On aura également ensuite, donc la première arrivée au sommet Goulienège, hein, que tu as eu l'occasion de vivre, hein, l'année dernière aussi.
L'année dernière, ouais, dans la voiture radio Hello conduite par toi-même.
Donc, brillamment conduite. Voilà, on verra si l'embrayage s'en souvient encore.
On verra si cette année, celui qui lèvera les bras à Goulienège remportera la Ronde de l'Isard, parce que c'est qui s'est passé l'année dernière.
Oui.
On a eu une belle course d'équipe d'ailleurs de la part des deux grosses équipes l'année dernière. Et la deuxième étape à laquelle se rajoute un col juste avant l'arrivée, avec le col du Choula à 34 km du sommet de Bonascre, Aix-Trois-Domaines.
Départ de Roques-sur-Garonne le matin.
Et c'était une arrivée du Tour en 2013, je crois.
Et puis
samedi, étape de transition, alors entre guillemets,
oui,
entre
Trie-sur-Baïse à l'antenne de suite, hein.
Entre Trie-sur-Baïse et Boulogne-sur-Gers. Trie-sur-Baïse, on salue d'ailleurs le maire de Trie-sur-Baïse, amoureux de vélo, hein, qu'on retrouve souvent sur la Route du Sud.
Ouais, Jean-Pierre Grasset. Trie-sur-Baïse, Boulogne-sur-Gers, et puis la quatrième étape, Éon-Saint-Girons, ça sera dimanche avec le col de Portée et le col de l'Accord. On a retrouvé le président organisateur, Julien.
On l'a retrouvé. Bonsoir Guy, comment ça va?
Oui, excusez-moi, j'étais sur la voiture et en plus j'avais un problème de téléphone. Donc j'étais un peu pris, voilà. Donc maintenant je suis avec vous. Pour répondre à vos questions.
On est avec Max tout à l'heure qui sortait de la réunion des directeurs sportifs, nous donne un petit peu la température. Il y a eu des changements, des modifications de dernière minute?
Non, il n'y a pas eu trop de modifications de dernière minute, si ce n'est qu'on a insisté surtout sur la sécurité, parce que depuis plusieurs années, on n'avait pas eu un peloton aussi important, et en quantité, hein. Et donc, il va falloir être vigilant sur la sécurité, et voilà, quoi. Et c'est surtout là-dessus qu'on a insisté. Voilà. Et après, bon, sur le côté protocole aussi, bien sûr, le respect du protocole, voilà, pour les partenaires.
Justement, en parlant de protocole, Guy, il y a eu cette présentation officielle à Toulouse jeudi dernier, du côté de la Maison du Rugby. Ça, c'est une nouvelle étape importante, hein, de présenter l'épreuve avec tous les partenaires, bien évidemment.
Oui, c'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau de faire une présentation 8 jours avant, mais je trouve que ça a été très bien parce que ça fait connaître la Ronde de l'Isard est connue au niveau de l'Ariège. Tout le monde connaît la Ronde de l'Isard, mais dès qu'on sort, qu'on passe les frontières de l'Ariège, bon, la Ronde de l'Isard c'est moins connu. Et d'avoir fait la présentation à Toulouse, en plus on l'a fait au comité de rugby, puisque bon, il y a ce mariage rugby-vélo qui se passe bien, et on l'a fait au comité donc régional de rugby, et je pense que bon, on a foutu un impact là sur sur la communication pour les gens qui connaissaient pas la Ronde de l'Isard et le haut niveau qui était représenté.
Et est-ce qu'il y a des changements notoires? On a déjà détaillé le parcours. Qu'est-ce qui pour vous est vraiment différent des autres années? Peut-être une fierté du côté du plateau?
Oui, je pense que le plateau cette année va dominer. 23 équipes aussi, c'est important, et c'est pas n'importe lesquelles.
Ouais, quel plateau.
Et surtout, ce qu'on peut remarquer cette année, c'est qu'il y a plusieurs équipes nationales. Chose qui est un peu nouveau. Et on a l'équipe nationale de Russie, l'équipe nationale du Portugal, l'équipe nationale du Japon, l'équipe de France, hein. Donc tout ces et l'équipe d'Angleterre aussi, de Grande-Bretagne. Donc c'est un peu nouveau chez nous qu'il y ait des équipes nationales plutôt que des équipes de clubs. Donc ça veut dire quelque chose. Et enfin, moi j'aimerais bien que des équipes nationales, parce qu'on pourrait passer notre épreuve en épreuve Coupe du Monde.
Est-ce que c'est l'objectif justement de parce qu'il manque
c'est
quoi
pas c'est... l'objectif parce que bon, je découvre cette année, mais bon, pourquoi pas, hein, ça serait bien pour la Ronde de l'Isard de passer Coupe du Monde.
Ouais. Bon, je regrette une chose, on avait déjà parlé l'année dernière, mais à l'époque on avait ce fameux contre-la-montre individuel. Est-ce que c'est d'actualité que ça reste quand même une épreuve très très particulière qui mettrait un peu plus de piment?
Oui, l'épreuve contre la montre, c'est très compliqué, l'épreuve contre la montre à mettre en place, puisque c'est compliqué parce que c'est souvent sur une demi-étape. Il faut trouver les villes il faut souvent bloquer la route. Bon, tous les ans, on se pose la question. On voudrait faire un contre-la-montre, soit par équipe, soit individuel.
Ah, par équipe, c'est vrai.
Mais problème de moyens techniques et d'organisation.
On l'avait fait il y a 2 ans en Boulogne-sur-Gers, où il y avait la demi-étape.
Oui, c'était.
Ça avait été une réussite, quand même.
Contre-la-montre qui avait été une réussite, bien sûr.
D'autres infos peut-être, est-ce qu'il y a aussi la présence, on disait, de l'équipe de France? Est-ce que c'est des petits plus comme ça qui font du bien pour le plateau?
Oui, ça fait du bien pour le plateau, et moi personnellement je me dis c'est une course à la Ronde de l'Isard qui est quand même bon, une course qui est reconnue au niveau technique. C'est que les techniciens, les techniciens qui soient au niveau des clubs ou au niveau des équipes nationales, bon, veulent participer à cette épreuve.
Donc, Philippe, est-ce que tu avais une question peut-être?
Non, pas particulièrement, mais je suis très content effectivement que Guy soit avec nous, parce que ça prouve que la Ronde, elle va repartir, elle est là, elle est toujours là, et je sais que c'est toujours très difficile de refaire repartir, parce que c'est difficile pour le cyclisme actuellement, pour trouver des commanditaires, des choses comme ça. Je sais que Guy, tu galères beaucoup, alors chapeau, c'est bien que ça parte.
Oui, cette année, je pense que bon, ça sera une belle épreuve, et en plus, au niveau de la gestion et des résultats, même quand on parle finance, bon, ça se passera très bien cette année.
Voilà, avec quelques partenaires nouveaux qui se recyclent, Julien.
Est-ce qu'on a des infos côté météo? Est-ce qu'on va avoir une étape un petit peu dantesque comme on a eu depuis quelques années, ou la météo va rester stable et on va avoir du beau temps?
Cette année, il va y avoir le beau temps avec nous, Et le premier jour, peut-être le jeudi, ça sera un peu, demain, ça sera un petit peu peut-être gâté, mais c'est pas des fortes pluies comme on a connu il y a deux ans à l'Hospice de France. Et peut-être dimanche, quelques petites averses, mais je pense qu'on va les éviter.
Julien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour à la présentation qu'on avait fait tout à l'heure également. Tu voulais voir s'il y avait un personnage à côté.
Ouais, il y avait un invité de marque.
Alors je suis en ce moment avec deux invités de marque.
Ah.
J'ai un invité de marque qui s'appelle Raymond Poulidor, hein, puisque c'est le parrain de l'épreuve. Mais exceptionnellement, à côté de moi, là, peut-être à un mètre, j'ai une légende du rugby, c'est Walter Spanghero.
Ah.
Voilà.
Intéressant. Voilà,
donc, et on va essayer de parler, surtout eux vont parler, puisqu'ils se connaissent bien, Raymond Poulidor et Walter Spanghero, donc ils vont peut-être discuter de leurs souvenirs. Et voilà, donc moi je vais être là et je vais être à l'écoute parce que c'est des sportifs que j'ai toujours appréciés. Je suis fan de ces deux personnages.
Bah, peut-être faire un petit coucou, je ne sais pas Guy si on peut faire un petit coucou à Raymond, peut-être savoir un petit peu.
Raymond, je ne sais pas où il est parti, suis passé, il est parti, je vais essayer de te le passer.
Bon, ok. On va essayer de trouver Raymond Poulidor. Philippe, j'imagine que tu as une question intéressante pour lui.
Oui, et puis une petite anecdote, moi, qui touche la radio également. Je me rappelle, j'étais en vacances, je crois que c'était en 1977 ou 1978, enfin, ces tours-là, et j'écoutais en stéréo Jacques Anquetil d'un côté, j'avais deux postes radio et Raymond Poulidor de l'autre. Parce qu'il passait à la même heure, un sur Europe 1, l'autre sur France Inter, et j'arrivais pas à choisir entre l'un ou l'autre. Ça, c'est un souvenir de soirée passée en train d'écouter deux postes radio. Je piquais le poste à mon père, j'avais le mien pour écouter.
C'était déjà de la stéréo, mais différente.
Voilà, voilà.
Bon. Je vais te passer, monsieur Raymond Poulidor. Il vient d'arriver à l'Estar.
C'est très gentil.
Merci Guy, à très vite. Allez, sur la Ronde du Lizard dès demain alors.
C'est une radio. C'est
allô.
Oui, bonjour Raymond Poulidor.
Oui, bonjour. Oui.
Merci d'être en direct dans Radio Vélo. C'est l'émission cycliste qui suit la Ronde de l'Isard tous les ans. On a eu le plaisir de vous croiser ces dernières années. On était en train de présenter l'épreuve 2016 avec Guy Sens. On voulait un petit peu vous demander avec quel plaisir vous retrouvez sur la Ronde de l'Isard. Vous étiez venu il y a deux ans, c'est ça?
Oui, il y a deux ans, j'étais venu. Alors, c'est une épreuve... Là, on ne peut pas tricher. Celui qui gagne cette course, c'est un futur grand.
C'est un futur grand, tout est déjà tout prêt du côté de Saint-Girons.
Je crois que le palmarès en fait foi. Ceux qui ont gagné ici sont venus d'excellents coureurs.
Julien,
c'est une course qui est dure.
Qu'est-ce qui, justement, une course, qu'est-ce que c'est qui vous attire dans cette course-là?
C'est pas mieux. Ce qu'il y a à dire, bon, c'est la montagne, c'est là où en principe. La décision se fait, c'est là que les costauds émergent et tout. Et comme je vous dis, celui qui gagne, bon, c'est un futur grand, quoi.
Philippe, tu as une question pour...
Ah oui, les costauds, la montagne, effectivement. Moi, ça me rappelle Raymond dans le Tour 74, quand il est parti, qu'il avait laissé mère sur place. Donc, c'est ça, les costauds. Il connaît bien la montagne, effectivement. Il faut être costaud en montagne pour partir, pour démarrer. Et il faut un beau parcours, effectivement. Et c'est le beau parcours de la Ronde de l'Isard.
Oui, et du coup, Guy, est-ce que... nous avions Guy tout à l'heure, c'est Raymond. Raymond, cette saison, vous avez eu l'occasion de suivre d'autres courses. Est-ce qu'il y en a une qui vous a plus marqué qu'une autre pour l'instant?
Oh ben moi, j'ai suivi toutes les courses du début de saison. Bon, le Grand Prix de la Marseillaise, l'Étoile de Bessèges, après le Tour du Haut-Var et la province, celle que Serge Pascal a fait à la suite du Tour du Haut-Var, c'est celle-ci qui m'a marqué, et surtout la victoire et la volonté de Vauclair,
ouais,
qui a gagné cette course là où elle était le dernier jour, où elle était très très difficile. Avec une arrivée en côte où il y avait 15%, je sais pas quoi. Là, il a sorti vraiment les tripes. Et puis, depuis, il entraîne son équipe qui a été formée au dernier moment par Bernaudot et qu'ils ont eu des résultats fabuleux, notamment le dernier résultat avec le tour les 4 jours de Dunkerque où Coquard a failli gagner les 5 étapes.
Bon, on voit que Raymond suit toujours de très près. On vous souhaite une bonne
journée.
Une bonne ronde de Lizard et puis une bonne soirée avec Walter Spanghero aussi qui est là, c'est ça on nous a dit.
Ah oui, ça y est, il est là, bon. Mais j'ai trouvé qu'il avait rajeuni.
C'est le vélo peut-être.
Oui, peut-être, oui.
Merci Raymond Poulidor d'être passé dans Radio Vélo, à bientôt.
Allez, bonsoir.
Bonsoir, Raymond. Merci. Et donc, merci à Guy Sans également qui a fait le relais téléphonique. Je ne sais pas si on le reprend. Merci, Guy Sans. À bientôt. Je pense qu'ils ont posé le téléphone sur une table. On va les remercier. Poupou qui suit toujours, hein, bien quand même.
Oui, il suit toujours, effectivement. Et là, ça montre qu'effectivement, Poupou, c'est le passé, mais il montre également l'avenir. Il parle de l'avenir du cyclisme. Et ce qui est important dans le cyclisme, c'est ce qui se passera demain.
Exactement. Et demain, c'est le direct Radio Vélo. À partir de 15h, le direct, l'arrivée à Gouliéneige à suivre ensemble avec Aubin, avec Julien, avec également Mélanie qui sera avec moi.
Jean le pilote,
qu'on lui fait un petit coucou. Et puis, bien évidemment, coup de chapeau à tous les organisateurs.
On va se régaler sur cette ronde de l'hiver.
De partout.
Je sens qu'on va vraiment s'éclater des coureurs qui vont faire la course.
Et on débriefera bien sûr tout ça ensemble le mercredi. Mais branchez-vous sur cette radio jeudi, vendredi à 15h. Bonne soirée à tous, le podcast dès la fin de soirée.
À demain.
Ciao.
Au revoir.
Ciao. Car la roue tourne.